commune.fm. Vendredi 4 octobre, c'est la soirée mensuelle radio ouverte au studio à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e, avec une émission spéciale à 20h, Fête des possibles, que j'animerai. Donc si vous souhaitez présenter une initiative pour construire une société plus durable, humaine et solidaire, n'hésitez pas à en venir à parler derrière le micro ou au téléphone. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain avec Mehdi et Amy. Salut et solidarité.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur libertés informatiques et également de la musique libre. Recrutement et diversité de genre dans l'informatique, ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique de Benjamin Bellamy sur les cookies tiers et aussi la chronique de Vincent Calam sur la convivialité d'Ivan Illich. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 5 novembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Élise. Bonjour Élise.
Bonjour tout le monde et bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique de Benjamin Bellamy, le truc que presque personne n'a vraiment compris mais qui nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, Benjamin va nous parler des cookies tiers. Bonjour Benjamin.
Bonjour. Ah, Internet, vous vous rappelez les fameuses autoroutes de l'information ? Internet, ce fabuleux réseau des réseaux à l'échelle planétaire et qui, dans les années 90, est arrivé dans nos foyers avec la promesse d'une société hyper connectée pour le meilleur et le encore meilleur. Avec un accès pour toutes et tous à du contenu de qualité, gratuit et sans publicité. C'était l'époque où tout semblait possible, où l'on imaginait un web pur, un web libre, un web ouvert. Et puis bam, le mur de la réalité. Bah, pour produire du contenu de qualité, il faut bien payer des créateurs et des créatrices, des développeurs et des développeuses, des serveurs et des bobines de câbles réseau. On le sait aujourd'hui, du contenu de qualité gratuit et sans pub, bah c'est pas possible. Ou alors c'est un cadeau, mais là quelqu'un l'a payé, donc en fait c'était pas gratuit. On s'est habitué à devoir choisir entre du contenu de qualité sans pub, mais pas gratuit, du contenu de qualité gratuit, mais avec de la pub, ou du contenu gratuit sans pub, mais bon, pour la qualité, va pas falloir être trop regardant.
Et donc la publicité a financé le web dès débuts.
Oui, ceux qui, comme moi, se rappellent l'époque où saisir son numéro de carte bancaire en ligne relevait d'un acte de foi presque insensé, se souviennent aussi que la publicité en ligne a été longtemps l'unique source de financement des sites.
Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu ne devais pas nous parler des cookies tiers.
Ouais, c'est vrai. Alors, vous vous rappelez un peu de ce que c'est qu'un cookie ? On en avait parlé lors de l'émission du 8 octobre.
Oui, oui.
Eh bien, un cookie tiers, c'est exactement la même chose, mais émis par un tiers. Ben voilà, vous savez ce qu'est un cookie tiers.
Mais sans vouloir te commander, est-ce que tu pourrais pas détailler un petit peu plus ?
Ouais, ok. Bon, vous vous rappelez la métaphore que j'avais utilisée la dernière fois pour parler des cookies ?
La queue à la poste.
Ouais, celle-là.
Le cookie, c'est comme le numéro sur le ticket quand on fait la queue, sauf que qu'on serait face à un serveur amnésique qui nous redemande notre ticket à chaque nouvelle question. Sinon, il ne sait plus qui on est.
C'est ça. Donc, si vous le voulez bien, je vais continuer à filer ma métaphore. Imaginez maintenant, sortant de la poste, vous alliez à la sécu, parce que ben, pourquoi pas, il y a des journées comme ça. Donc vous arrivez à la sécu, vous prenez un nouveau ticket, et donc avec un nouveau numéro, et quand vous êtes face au serveur amnésique, ouais, on est toujours dans ma métaphore, hein, vous lui montrez votre nouveau ticket à chaque question. Le ticket, le cookie donc, permet de maintenir une session ouverte tout au long de la discussion. Mais ce n'est pas le même qu'à la poste. Chaque service a son système de tickets, chaque serveur a son système de cookies. À la Sécu, le préposé n'a aucune connaissance du numéro que vous aviez eu à la poste, et d'ailleurs, il ne sait même pas que vous en venez.
Alors, je ne vois toujours pas le rapport avec les cookies tiers.
Eh bien, en fait, ce cloisonnement des cookies entre les sites, ce n'est pas hyper pratique quand on est publicitaire et qu'on veut faire du profilage. Et là, l'idée géniale, ça a été d'utiliser l'architecture des pages web. Parce que vous le savez peut-être, une page web, elle est constituée d'un texte écrit en HTML qui permet d'embarquer tout plein d'éléments, des feuilles de style, des images, des vidéos, bref, plein de ressources qui sont autant de fichiers. Et chacun de ces fichiers peut provenir soit du même site que la page, soit d'un autre site, un site tiers.
On commence à voir venir l'embrouille.
Et ouais, parce que pour chacune de ces ressources, même une minuscule image de un tout petit pixel, eh ben, elle peut transporter un cookie avec elle, qui peut donc venir d'un site tiers, et qui s'appelle Orio, un cookie tiers.
Mais c'est le 8e passager, en fait.
Alors, pas tout à fait, ouais, mais pas loin quand même. Hein. Parce que, pour en finir avec ma métaphore, et après j'arrête, hein, le cookie tiers, on peut le voir comme un distributeur de tickets clandestins, on va l'appeler Facebook, qui squatterait un peu tous les sites, alors avec leur approbation, et qui vous collerait son ticket sur le front, bam, sans vous le dire, bien sûr. Alors concrètement, dès que vous voyez un bouton like Facebook sur un site, et ben bam, vous avez un ticket collé sur le front. Et même si vous n'avez pas de compte Facebook, et ben Facebook sera en mesure de vous reconnaître et de vous suivre sur tous les sites où ce bouton like est présent. Et là encore, c'est sympa, parce que le bouton, il est visible, donc on peut se douter qu'on est suivi et puis qu'on a le post-it sur le front. Mais ça peut se faire aussi de manière totalement invisible et furtive.
Ah, donc c'est pour ça que j'ai des pubs pour des canapés partout après avoir regardé un seul site de meubles.
Absolument. Grâce à ces cookies, les annonceurs se partagent tes habitudes et peuvent te cibler.
Et personne n'a rien dit ?
Alors si, bien sûr. Car si les cookies ont des usages tout à fait honorables, on l'avait vu la dernière fois, hein, les cookies tiers sont rarement utiles pour autre chose que du profilage. Donc déjà, le RGPD en a encadré l'usage. Il est désormais illégal en Europe de vous coller un cookie sur le front sans vous demander votre consentement. Mais les navigateurs ont aussi pris les devants pour les bloquer. Firefox a été le premier à agir dès 2015, puis Safari a suivi dès 2017.
Oui, Apple met beaucoup en avant la protection de la vie privée.
Alors, ouais, Apple met à d'autres sources de revenus. Il s'est donc posé en champion de la vie privée et c'est tout à son honneur. Mais c'est un peu exagéré et c'est surtout très stratégique parce que ça lui permet de contrôler ses concurrents. Et d'ailleurs, 5 associations françaises ont récemment écrit une lettre ouverte à Tim Cook pour dénoncer un abus de position dominante à propos de la future gomme magique d'iOS 18. Alors cette gomme, appelée aussi Distraction Control, elle permet d'effacer automatiquement tout type de contenu, dont de la pub. Et, enfin de la pub, celle des autres, hein, pas celle d'Apple. Et par ailleurs, Apple, en début d'année, s'était attiré les foudres d'un bon nombre d'entre nous quand ils avaient annoncé qu'ils supprimaient purement et simplement PWA de Safari dans iOS 17. Ils avaient finalement renoncé. Alors PWA, c'est cette fonction géniale des navigateurs web qui permet d'installer une application web sur son mobile sans passer par les fameux App Store de Google ou d'Apple et de s'affranchir ainsi totalement de leurs taxes et de leurs contrôles. Donc oui, Apple protège la vie privée, mais c'est surtout quand ça protège sa valorisation boursière.
Un cheval blanc, plutôt gris en somme. Et Google ?
Ah, alors, chez Google, on a bien pris son temps. Et on a attendu 2020 pour annoncer que Google Chrome bloquerait enfin les cookies tiers d'ici 2022. Et grande surprise, en fait non pas du tout, on est en novembre 2024 et on attend encore.
Alors, c'est sûr que quand on détient plus de 60% de parts de marché, on peut se permettre de prendre son temps.
Ouais, et d'ailleurs, n'oubliez pas que votre navigateur, c'est votre fenêtre unique sur Internet. C'est le filtre à travers lequel vous percevez toute la toile. Donc quand aujourd'hui Firefox ne représente plus que 2% des utilisateurs, tandis que Chrome dépasse les 60%, c'est tout l'équilibre numérique qui est en jeu.
Attends, tu es en train de dire que notre navigateur influe sur notre accès à l'information ?
Absolument. Et le problème, c'est qu'un acteur aussi dominant que Chrome peut décider unilatéralement des règles du jeu du web tout entier. Que ce soit pour bloquer les cookies tiers, pour autoriser telle ou telle extension, bref, pour imposer sa vision du web.
Alors donc, d'un côté, la publicité aide à financer le web grâce au laxisme de Chrome, mais de l'autre, Chrome contrôle tout ce qu'on peut voir.
Et ouais, c'est tout le paradoxe. Alors, personnellement, je suis pas du tout pour les bloqueurs de pub, car ils appauvrissent directement les créatrices et les créateurs. Mais quand un géant monopolistique refuse de bloquer les cookies tiers d'un côté, mais bloque les bloqueurs de pub de l'autre, je trouve que d'une, il nous prend pour des truffes, et que de deux, ben, ça porte atteinte à nos libertés numériques.
Nos libertés numériques, carrément ?
Ben, carrément, ouais. Parce qu'au final, chacun en tirera ses propres conclusions, mais puisque c'est moi qui tiens le micro, je vais vous donner la mienne. Supprimez Chrome aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Et remplacez-le par un navigateur libre, Firefox.
Ah, le fameux Firefox. Et ça change quoi, concrètement ?
Eh bien, sur Firefox, vous avez le contrôle. Vous décidez. C'est pas Apple, c'est pas Google. Et un dernier conseil pour la route. Sur votre mobile, installez Firefox Focus et définissez-le comme navigateur par défaut. Ça supprimera tous les cookies à chaque fermeture. Là, au moins, on sera sûr du résultat.
Bah écoute, merci Benjamin pour cette belle chronique sur les cookies tiers. On retrouvera Benjamin le mois prochain dans Libre à vous. Et d'ici là, le samedi 16 novembre, pour une conférence au Capitole du Libre de Toulouse. Et enfin, tous les mercredis, dans son podcast RDGP, le podcast sérieux qui vous emmène au cœur des enjeux des droits numériques, des libertés individuelles et de la vie privée, que vous retrouvez sur rdgp.fr. Merci Benjamin.
Merci à toi.
Alors, Élise, je crois qu'on va pas passer de pause musicale car priorité à une actu importante, on va ouvrir l'antenne une cinquantaine de secondes à la rédaction du Lama Déchaîné.
Ici, en direct de la rédaction du Lama Déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante.
La campagne de soutien financier de la prime ?
Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 euros. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi.
Mais c'est demain le prochain numéro, alors ?
Eh oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que.
Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes.
Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres.
Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission.
On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April.
Écoutez, c'est la rédaction du Lama Déchaîné, G et Bouquinette. Et pour rappeler ce que disait G la semaine dernière, si vous ne pouvez pas contribuer, partagez l'information au moins. Donc sur april.org/campagne. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de recrutement et de diversité de genre dans l'informatique. En attendant, nous allons écouter Saturne par Olizna. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Saturne par Olizna, disponible sous licence libre, Creative Commons CC0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui est une rediffusion d'une émission diffusée lors de la saison 7, donc la précédente saison. Le thème est le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique. On se retrouve en direct d'ici une petite heure. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique ou pourquoi et comment recruter des femmes dans un milieu d'hommes. Avec nos deux invités, Marcy Erika Charolois et Florence Chabanois, que je vais laisser se présenter juste après. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors, donc on va déjà commencer par une petite présentation. On va commencer par Marcy qui est à distance. Bonjour Marcy.
Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, en effet, moi c'est Marcy, je suis consultante en inclusion numérique pour les minorités et les expériences inclusives.
D'accord. Florence venait de tousser, donc je me demandais si ça s'entendait à la radio. Donc Florence Chabanois.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marcy. Très contente d'être parmi vous. Donc moi je suis Head of Engineering et aussi cofondatrice de l'association La Place des Grenouilles, qui est antisexiste.
Donc, Head of Engineering, c'est responsable d'ingénierie dans l'informatique.
Pardon.
Oui, je sais que tu as plus l'habitude des podcasts internationaux, mais ici, on essaye un petit peu de traduire. Donc, on va pas parler technique aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas trop, je pense. Alors, j'ai envie de commencer pour introduire le sujet, par une question un peu provocatrice. Excusez-moi pour la provocation, mais pour déterminer un peu pourquoi finalement on fait cette émission. Donc, la question, c'est finalement pourquoi chercher plus de mixité dans les équipes d'informatique? Une structure, hein, qu'elle soit entreprise ou autre, recrute la personne la plus compétente, quel que soit son genre. Alors, qui veut répondre à cette question parfaitement assumée, provocatrice? Qui veut commencer? Marcy, peut-être?
J'allais dire, si tu veux, Florence, tu peux commencer.
Ouais, je pense, Florence, que t'as de la matière.
Ah, okay, vas-y, Marcy, okay. Alors.
Bon. On va faire
faites comme vous voulez.
Non, mais c'est une question intéressante dans le sens où, en effet, on pourrait tout à fait se demander pourquoi on a un intérêt à avoir des démarches inclusives dans un milieu qui... Et aujourd'hui, à jour très masculin, déjà parce qu'on a un historique de la tech qui est en réalité plus féminin qu'il n'y paraît, avec des novatrices qui ont lourdement participé à la performance numérique, technologique. Toutes les innovations qu'on connaît aujourd'hui, en général, il y a une grande femme derrière qui est citée comme une femme, et il y en a beaucoup des noms en réalité qu'on connaît. Je pense notamment à Hedy Lamarr, qui change un petit peu d'Ada Lovelace, qu'on identifie, elle, comme la pionnière de l'informatique. Mais il y en a d'autres. On a Grace Hopper et notamment toutes les femmes afro-américaines qui ont participé au calcul, du coup, d'Apollo. Donc, tout cet historique-là, il fait qu'aujourd'hui, on peut pas permettre encore ce storytelling, cette narration qui existe, qui est que le secteur est uniquement masculin et qu'il a toujours été et que c'est comme ça. Non, en plus, on est dans un secteur qui est attractif d'un point de vue économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, rien que sur le marché de l'IA en 2024, on est quand même à une estimation de plus de quasiment 16 000 milliards d'euros. Et finalement, il faut aussi se dire que toutes ces opportunités-là qu'on a, il faut aussi que les femmes et les minorités de tout type puissent avoir une place et participer et être représentées correctement dans ce qu'elles peuvent amener à la diversité à la fois des équipes, donc on parle de recrutement, mais aussi de conception. Parce que si on continue à avoir un milieu qui est à 100% homogène, nous allons finalement foncer droit dans le mur avec des reproductions de biais qui seront évidentes et qui ont déjà été lourdement pointées du doigt.
D'accord, merci. Florence ?
Oui, globalement, je suis complètement d'accord avec ce que Marcy a dit. En plus de ça, je rajouterais la partie conception. C'est plus un prolongement de son propos. Oui. Mais sur, déjà, on est majoritaire, donc rien que le terme minorité de genre est étrange, vu que les femmes sont à 52% de la population. Et ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, les produits qui sont conçus ne prennent pas en compte les femmes, parce que c'est un biais humain. On va s'occuper déjà des besoins que nous on a et que notre catégorie de population a, sans parler du fait que les hommes sont moins socialisés aussi à se mettre à la place des autres d'un point de vue éducation. Et du coup, ça fait qu'il y a la moitié de la population qui est écartée des inventions, et on parle pas juste d'inventions luxueuses, c'est vraiment des besoins primaires, sociaux à satisfaire, qui font que la santé des femmes, par exemple, est moins bien prise en compte si les produits numériques sont conçus uniquement par des hommes cis. Voilà.
Ok, je vais juste préciser parce que le sujet du jour c'est la diversité de genre, mais évidemment c'est qu'une partie de la diversité, donc sentez-vous aussi libre d'aborder d'autres sujets, même si aujourd'hui on axe effectivement principalement sur cette thématique-là. Donc là c'était l'introduction qui explique pourquoi finalement il faut agir, et pour éviter d'entretenir quelque part ce statu quo, il faut agir. Donc on va faire deux grandes parties en fait dans l'émission. La première, on va plutôt parler de la partie recrutement, c'est-à-dire comment on recrute. Et dans la deuxième partie, on va dire comment on arrive à fidéliser, entre guillemets, ou en tout cas à faire que les gens ne partent pas, parce qu'il y a aussi, je crois, des statistiques, et vous en parlerez sans doute, du nombre de départs assez rapides de femmes au bout de quelques années. Mais on va d'abord commencer sur l'action sur le recrutement. Alors je crois que Marcy, tu voulais notamment parler de méthodes de recrutement scientifiques. Alors j'avoue que je ne vois pas du tout ce que c'est, donc si tu peux nous expliquer.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui est dit méthode de recrutement scientifique, c'est une méthode de recrutement qui ne s'appuie pas sur le feeling. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, parce qu'au final, plus on va recruter au feeling et plus on va s'appuyer uniquement sur ses biais, ses perceptions, et de fait reproduire une culture dont parfois on n'a pas conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, c'est que malgré nous, suivant nos histoires personnelles, notre éducation, les écoles qu'on a fréquentées, les cercles socio-économiques dans lesquels on a évolué, on n'est plus à même de reproduire les mêmes comportements de tous ces cercles dans lesquels on a grandi et dans lesquels on évolue chaque jour. Donc, si je me base uniquement sur du recrutement au feeling, je vais forcément m'appuyer sur des préconceptions et des biais qui vont valoriser une prise de décision qui n'aura pas fait preuve d'objectivité, en fait. Et c'est tout le problème et c'est tout l'enjeu. Donc quand on parle de méthodes de recrutement dites scientifiques, on va avoir des méthodes de recrutement qui font appel à ce qu'on appelle du scoring. Donc suivant des critères qui sont préétablis, on va pouvoir mettre un score sur des questions bien précises. Et quand je dis bien précises, c'est justement ne pas tomber dans quel est votre type d'écriture. Ah, suivant votre écriture, je peux déduire que vous êtes une personnalité plutôt vive ou une personnalité plutôt lente. Ou alors, suivant votre signe astrologique, je peux dérouler une préconception de qui vous êtes. Ou alors, par rapport à votre genre, par rapport à votre nom, par rapport à votre adresse, je peux déduire plein d'informations qui ne sont pas vraies. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes dites scientifiques vont vraiment reposer sur des questions qu'on appelle comportementales et qui vont donc s'appuyer sur le comportement de la personne suivant des questions qui seront rédigées en ce sens. Et ce sont des questions qui sont aussi situationnelles. Je vais vous faire un exemple assez typique de un entretien qui s'appuie sur une méthode scientifique. Ce serait avez-vous déjà rencontré une situation dans laquelle vous avez dû faire preuve de leadership? Qu'avez-vous fait suivant les enjeux que vous avez rencontrés? C'est beaucoup plus cadré que je sais pas quels sont vos trois défauts et vos trois qualités. En fait, j'en sais strictement rien. Moi, j'ai moi-même mon propre baromètre d'évaluation si je pose une question aussi vague que trois qualités et trois défauts. Donc, en fait, il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour débiaiser au maximum et arriver à un résultat qui sera objectif et évalué.
D'accord, donc c'est des questions où il y a plus de mise en situation concrète, effectivement, plutôt que les fameuses questions vos trois défauts, vos trois forces, etc. Si je comprends bien.
Exactement. Et il y a une méthodologie aussi qui s'appelle du coup STAR, que je donne à toute personne qui fait passer des entretiens, qui est pas mal. Donc c'est faire la mise en situation, donc expliquer la situation. Donc en gros, la mise en contexte de ce qui s'est passé au regard de la question. Ensuite, il y a quelles ont été les tâches qui ont été mises en place pour parvenir à l'objectif. Ensuite, pour le A, ce sera l'action. Quels sont les types d'actions qui ont été mises en place? Ça peut être en équipe, ça peut être individuel, peu importe la question qu'on vous pose, mais reposez-vous toujours là-dessus pour bien valoriser ce que vous savez faire et justement sortir du persona que vous pouvez évoquer par vous-même si vous êtes une femme ou une ou toute autre minorité. Et donc pour le R de la méthode STAR, c'est le résultat, c'est quels sont les résultats obtenus. Par exemple, je sais pas moi, j'ai mis en place telle feature, le résultat c'est une hausse de 10% de clics à cet endroit. Vous voyez ?
D'accord. Alors, je précise que là, tu parles déjà de l'entretien d'analyse. On reviendra peut-être juste après sur les offres d'emploi aussi, parce que est-ce qu'il y a des choses à faire sur les offres d'emploi, mais on va quand même poursuivre sur cette partie-là. Florence, tu voulais réagir ?
Moi, je plus souvent, encore une fois, merci en réalité. Un des éléments que... parce que du coup, il y a ce mythe que tu as évoqué tout à l'heure en introduction en disant pourquoi on ne recrute pas uniquement sur la compétence ? Comme si c'était ce qu'on faisait.
En fait, c'est souvent ce qu'on entend, les gens qui critiquent ça, qui disent, mais finalement, on recrute pas un homme ou une femme, on recrute une compétence.
Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est très naïf de croire qu'on est imperméable au biais. Et l'avantage de ces types de méthodes, du coup, qu'on applique déjà à plusieurs personnes, ça fait qu'on a des éléments à peu près comparables, en tout cas plus comparables, et qui sont aussi orientés sur un besoin concret, plus que sur un jugement de valeur, sur des affinités qu'on peut avoir avec quelqu'un ou pas. Ça permet déjà d'enlever ces problématiques-là, de discrimination en fait dont on n'a pas conscience. Ne serait-ce que quand on parle de compétences, de quelles compétences on parle ? Est-ce que moi j'ai vu tellement d'entretiens, mais y compris les miens, hein, qui ont recours à des usages en entretien qu'on n'utilise pas du tout en situation.
Donc alors, concrètement, un exemple.
Ouais, voilà, concrètement, c'est qu'on va faire du live coding. Du live coding, ça veut dire qu'on va donner un exercice à quelqu'un, donc complètement un cas d'école en fait, donc ça on sent même pas une vraie situation, parce que une vraie situation on arrive sur un code qui existe déjà, on va apporter une amélioration. C'est la première différence et pourtant c'est ce qu'on fait. La deuxième chose c'est qu'on va regarder par-dessus son épaule comment ça se passe
pendant que tu codes. D'accord.
Rien que ça rajoute encore quelque chose. Et ça c'est des effets qui en réalité la personne ne va pas rencontrer ça si on l'intègre dans l'entreprise. Mais c'est comme ça qu'on va évaluer la personne. Et du coup, là, ça déclenche plein de mécanismes très personnels et aussi sociaux sur le fait de qu'est-ce que ça nous fait d'être regardé. Si on a le biais du stéréotype qui s'enclenche en disant les femmes sont moins fortes en informatique, je me sens regardée, les effets sont aussi différents selon les genres sur ce type de situation. Ou alors des personnes qui sont très extraverties vont être eux aussi plus à l'aise. Un autre sujet sur la compétence, encore une fois, qu'on brandit vraiment. Alors vraiment, moi j'ai une conviction, c'est qu'on recrute pas du tout par les compétences d'emblée en fait. C'est un travail qu'il faut, c'est un processus qu'il faut mettre en place, mais que c'est pas du tout si naturel et si fréquent que ça. L'autre point, oui, c'est la capacité à se mettre en avant. Moi, j'ai rencontré plein de femmes. J'avais énormément de mal à les évaluer quand j'avais pas de structure dans mes questions, parce que justement. Il y a plein de facteurs en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on dit aussi aux femmes que elles doivent moins se vanter, moins se mettre en avant. Du coup, en entretien, si elles se vantent, si elles se mettent en avant en fait, elles montrent leurs compétences, elles peuvent aussi être pénalisées sur ça, en disant cette personne, elle va sûrement pas bien s'intégrer, elle se vante trop, elle se met trop en avant. Ça aussi, c'est des choses dont ces femmes ont conscience et vont aussi se ralentir hein, par rapport à ça. Vous savez qu'il y a plein d'injonctions contradictoires qui fait qu'on n'est pas du tout sur un pied d'égalité en fait dans les entretiens et les processus de recrutement. Donc tous ces processus à mettre en place, notamment la méthode STAR et puis plein d'autres, déjà c'est de se dire, on définit de quoi on a besoin réellement au quotidien dans l'emploi qu'on cherche. C'est pas juste des questions gratuites, c'est des questions pour savoir quelque chose. Et ensuite, on met en place un processus qui se répète et qui permet de comparer des éléments comparables.
D'accord. Tout à l'heure, je ne sais plus laquelle de vous parlait des biais en introduction. Des biais. Quels sont les biais principaux, biais de recrutement aujourd'hui, par rapport au genre, j'entends. Merci.
Il y en a plusieurs. Moi, je pense notamment au biais de tout ce qui est biais de confirmation, mais je vais surtout penser au biais de Halo, qui joue énormément en recrutement. Alors, le biais qui s'appelle l'effet de Halo, c'est la façon d'utiliser sa première impression pour tirer des conclusions sur un portrait global. En fait, donc si moi j'arrive très souriante, comme disait Florence, hein, c'est si j'arrive très souriante, mais qu'en même temps je me mets en avant, mais pas trop, on va se dire ok, ouais, super, elle est douce et en même temps elle peut bien se vendre. Donc en fait, elle risque de bien s'intégrer et de pas prendre le dessus dans l'équipe. Typiquement, si j'arrive vraiment avec tout un tas de codes non verbaux. En sachant que je crois qu'il me semble que c'est à hauteur de 70% que les codes non-verbaux rentrent en jeu dans notre façon de nous évaluer, nous autres, en tant qu'êtres humains, ça va avoir un poids vraiment considérable dans la préconception qu'on va déjà apposer sur moi et qui va confirmer ou pas une certaine, je ne sais pas comment dire ça, mais un certain persona qu'on va déduire de moi et qui sera peut-être complètement à l'opposé. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à l'inverse avec des personnes qui sont d'excellents candidats, mais pas les bonnes personnes pour le poste. Et ça, c'est important à souligner, parce que parfois, on a vraiment des gens qui savent vraiment très bien passer les entretiens d'embauche, notamment des hommes qui peuvent avoir tous les codes du milieu tech. Si en plus, ils ont grandi dans une culture geek, dans une culture vraiment numérique, beaucoup plus accrue qu'une femme, je prends l'exemple inverse, mais une femme qui aurait fait plutôt un bootcamp, qui aurait entendu sur le tard la possibilité de rentrer dans ce type de carrière, en fait, on n'est vraiment pas du tout sur le même pied d'égalité. Donc l'effet de Halo, il peut être très violent à ce niveau-là. Et ça ne veut pas dire que dans les faits, si on prend cette femme-là dont je parle en guise d'exemple versus l'homme qui est un très bon candidat, ça ne veut pas dire que dans les faits, la femme ne pourra pas être une meilleure employée sur le long terme. Et en fait, c'est tous ces points-là qui sont des vrais points de friction. Je ne sais pas si tu as une autre idée de biais, toi, Florence.
Alors, juste avant qu'elle réponde, comme ça lui permet éventuellement de réfléchir, ce que tu viens de me dire me fait penser, j'ai vu une excellente conférence que vous avez peut-être vue à Mixit, donc, qui est une conférence autour de la tech et de l'inclusion. C'est Anaïs Suette, je crois, qui a fait une conférence sur est-ce que la douceur est un avantage ou un inconvénient dans ce monde. Je ne sais plus exactement le titre. Mais elle s'explique à un moment, en fait, que pour une mission où elle était vraiment, elle avait coché toutes les cases de compétences, qualité, etc. En fait, le client ne l'avait pas prise parce qu'elle avait une voix trop douce. Et donc, il lui avait dit, vous n'arriverez pas à vous imposer dans l'équipe. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant quand même d'entendre ça. Et donc, vous confirmez, Marcy ou Florence, que cette voix trop douce qui peut être un problème bloquant, en fait, pour des femmes.
En tout cas,
ouais, d'accord.
Dans la façon d'avoir accès à des financements, il faut savoir que les femmes qui ont des voix plus aiguës se voient perdre des points considérables à l'accès au financement de leurs entreprises, leurs startups, etc. D'accord. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez effarant. Donc en fait, il y a pas mal de mimétisme aussi de la part des femmes à parler dans des octaves du coup bien plus basses pour paraître plus sérieuses et plus crédibles.
D'accord, ok. Ouais. D'ailleurs, dans sa présentation, elle expliquait aussi que Margaret Thatcher, visiblement, avait fait un travail, par exemple, pour justement parler d'une voix un peu plus grave, etc. Mais je vais laisser donc Florence revenir sur les autres biais de recrutement que tu as pu identifier.
Carrément. Je me permets des digressions aussi. Oui, du coup, merci par rapport à ce que tu disais. Moi, j'avais lu, c'était le même texte par rapport à des investisseurs et investisseuses qui étaient lus par des femmes ou des hommes. Et il me semble que c'était deux fois plus, ou c'était convaincant ou pas.
C'est ça.
Voilà. Donc rien que sur la hauteur de la voix, quoi. Et par rapport à Anaïs, ce que tu évoquais, Frédéric, encore une fois sur le fameux mythe de la compétence, il y a une étude de 15Tech qui est sortie il y a pas très longtemps et qui confirme déjà une intuition qu'on est beaucoup à avoir, je pense, c'est que les femmes sont évaluées pas que sur la technique, en fait. Elles vont être évaluées beaucoup sur la technique, beaucoup plus en fait que des hommes, mais aussi sur le relationnel. Et du coup, la douceur, ce que tu dis, c'est que si la personne, par exemple, enfin la femme pour le coup, n'est pas assez souriante et n'a pas en plus des traits de relation, ça va être pénalisant. Alors qu'un homme, on considère que la technique tout seul, ça suffit.
Alors, te préciser la question, est-ce que ça peut être aussi éventuellement un avantage en fonction du poste recherché ?
Non, jamais.
Non, jamais ? D'accord.
Jamais. Okay. Jamais sur un poste tech. Parce que ce sera toujours un bonus, en fait.
Okay.
On va toujours mettre, en tout cas à date, en 2024, le niveau technique, la compétence au-dessus. Technique, en fait, plus importante que relationnelle. Pour un homme, ce sera un bonus. Ça peut être un critère si on utilise la méthode STAR, mais c'est quand même moins souvent un critère que le côté technique. Alors que sur la femme, ce sera indispensable. Si elle n'a pas les deux, ça marche pas, quoi. Et sur le côté douceur, c'est quand même terrible, parce que je sais pas si tu t'en rends compte, mais ça veut dire que moi, j'ai déjà eu des feedbacks en disant « Ah, mais je sais pas si tu pourras t'imposer et tout. » Moi, ça va, je gère quelques dizaines de personnes. Et j'ai même pas cherché à argumenter. Je me suis dit « Si tu savais tout ce qu'on se prend, en fait, dès qu'on commence notre carrière. » Mais bon, si à l'inverse, quelqu'un a une voix pas douce, une femme a une voix plus affirmée, bah, ça peut aussi être pénalisant. C'est quand même là où il y a vraiment la...
On va perdre tout le temps, en fait.
En fait, c'est ça.
C'est ça.
C'est qu'on a très, très petit spectre.
Oui.
Ou si on tape dedans, ça marche. Mais si on fait un petit glissement, on peut être pénalisé très rapidement. Et du coup, sur les biais, parce que c'était la question d'origine. Moi, c'est le biais de similarité, du coup, qui est un peu la petite sœur du halo, je pense, qui fait qu'on se rend pas compte comme on aime bien les gens qui nous ressemblent. Et encore plus dans une culture tech où il y a quand même pas mal de culture bro et tout ça.
Culture bro, tu peux expliquer s'il te plaît ?
Ben entre frères, quoi.
Oui, voilà.
Donc ça va être on va mettre en avant du baby foot, de la bière, tout ce qui est fraternité, c'est quelque chose qui est très très mis en avant dans les médias, dans la politique, c'est une valeur qui est universelle, n'est-ce pas ? Alors que la sororité, on l'entend moins. Et du coup, il y a ce côté ah, je vois quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes centres d'intérêt, et du coup on plonge très vite dedans. Et du coup avec ce biais-là, on peut très bien très vite oublier tout le reste, le côté. Mais je suis en train d'évaluer le reste, enfin d'évaluer quelqu'un, et on oublie de poser toutes les questions qui sont importantes. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut se retrouver à faire des recrutements ratés parce qu'on s'est un peu laissé entraîner dans un petit un petit effet narcissique en disant ah bah je m'entends bien avec cette personne. Parce qu'on cherche surtout des collègues, en réalité, quand on veut recruter.
Alors, j'ai une question. Est-ce que le fait d'inclure une femme dans le processus de recrutement, au niveau entretien, est-ce que c'est pratiqué ? Est-ce que c'est positif, négatif ? Est-ce que ça permet de tester, par exemple, les hommes aussi, pour voir, par exemple, si l'homme qui est recruté va plus parler à l'homme recruteur ou à la femme recruteuse ? Voilà, je sais pas, est-ce que c'est pratiqué ? Merci. Sur l'implication d'une femme dans le processus de recrutement.
Est-ce que c'est pratiqué ? Ça se pratique de plus en plus, je pense. En tout cas, de ce que moi j'ai comme discussion, il est évident que on a aussi des prises de position politiques quant au numérique, ne serait-ce que le pacte parité pour l'égalité femmes-hommes. Ça implique pas mal de choses en termes de d'évolution des rôles des femmes dans la tech et notamment le fait de les inclure dans les processus de recrutement. Est-ce que c'est une garantie de réussite ? En rien du tout. S'il y a bien une chose sur laquelle on est complètement égaux en tant que femme et en tant qu'homme, c'est notre capacité à être totalement absorbée par nos propres biais et de ce qu'on va chercher à déterminer comme confirmation ou non. On peut avoir aussi des effets qui sont bien réels, c'est tout ce qu'on va appeler la misogynie intériorisée, comme on peut avoir du racisme intériorisé, du validisme. Donc ça, c'est par rapport à plutôt au spectre du handicap et de l'accessibilité, qui va être intériorisé. Et on peut parler de grossophobie, etc. Et ce serait totalement expansif, en fait. Et en fait, les femmes sont pas du tout étrangères au fait d'avoir intériorisé tout un tas de biais pour en plus survivre. Donc si on est la seule femme dans une équipe complètement masculine, et que on a suivi des études, je donne un exemple comme ça, mais des études d'ingénieurs où déjà on a été sociabilisé comme étant l'une des seules femmes de sa promo pendant des années. Il faut bien prendre en compte qu'on a intériorisé tout un tas de biais en tant que femme aussi. Et du coup, il faut vraiment faire tout un travail de déconstruction. Ça, c'est vraiment le pied d'égalité des hommes et des femmes dans notre industrie, mais comme bien d'autres. Hein. Et tant qu'on fera pas cette démarche-là, on pourra pas garantir la maximisation des effets positifs des recrutements dits inclusifs et objectifs.
D'accord. Alors avant de faire une pause musicale, ce que je viens de dire, je me fais une question à Florence. Est-ce que tu rentres dans ce... Parce que je me souviens pas si tu as fait des écoles d'ingénieur, d'éthique.
Moi, j'étais à la fac, mais c'était de l'informatique.
C'était de l'informatique, donc probablement dans un milieu effectivement très masculin.
Oui, on n'était pas beaucoup.
Voilà. Donc ce que vient de décrire Marcy, toi, tu l'as vécu, et est-ce que dans ton travail de recruteuse, parce que tu as fait aussi du recrutement, hein, est-ce que ça a évolué par rapport à il y a quelques années, par exemple?
Oui, complètement. Hein. Bah, du coup, on avait fait une presse aussi justement avec Marcy. Ouais. On en parlait un peu parce que moi, je suis complètement dans ça. Le féminin, c'était moins bien. C'est vraiment pas quelque chose dans lequel je voulais être associée, et du coup c'est ça qui est compliqué, c'est que on vit dans la même société en réalité, qu'on soit homme ou femme, et que quand on arrive justement à survivre dans ce système malgré nous, même sans nous en rendre compte, hein, vraiment, donc j'allais pas mépriser les femmes ou quoi que ce soit, mais c'est pas quelque chose dans lequel je voulais être associée, et c'est relativement récent quand même où je me suis rendu compte de ça au niveau du recrutement en tout cas. Et une fois qu'on en a conscience et qu'on commence à prendre des actions, c'est là qu'on voit des choses très très différentes.
D'accord.
Et qu'on a tort surtout.
Bon, on va y revenir après la pause musicale. Donc on va faire une pause musicale. Alors la pause musicale est proposée par Joseph Garcia de l'équipe Musique de Libre à vous, est également membre de l'équipe de l'émission Les Contes, c'est du sérieux. Et je pense que la musique devrait vous plaire. Alors je vais le faire en anglais puis en français. Le titre c'est Burn the Whole Thing Down. En gros c'est Tout cramé, de Moma Swift. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
I liked the fact that it was unexplained.
It's still manky for.
Anyway, I'm gonna do this.
Écoutez Burn the Whole Thing Down par Moma Swift. Je vous encourage vraiment à écouter tout l'album, surtout en cette période un peu troublée. Et donc ce titre est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. l'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre sujet donc sur le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique avec donc nos deux invités, Florence Chabanois qui est avec moi au studio et Marcie Erika Charolois qui est à distance. Avant d'aborder la question, on va dire sur le long terme pour entretenir les bonnes pratiques, et on va aussi quand même reparler éventuellement de la partie recrutement si vous voulez. Je voulais qu'on revienne pour ne pas oublier sur la partie qui précède le recrutement, qui est l'offre d'emploi, le profil de poste, l'offre, voilà, sur laquelle qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'en fait, avant même de l'entretien, que vous ayez des personnes autres que des hommes qui répondent à ces appels d'offres. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses au contraire à ne pas faire? Bon, on va commencer par Marcie, je pense que donc sur cette partie, on va dire offre d'emploi.
Il y a pas mal de choses à faire. Déjà, pour commencer, il y a la capacité de féminiser le poste. Ou alors de mettre la mention FHX pour femme, homme et du coup non binaire par exemple. Disons qu'il y a pas mal de réflexions autour du point médian sur le fait qu'il manque d'accessibilité suivant les troubles 10 et même aussi les liseuses pour les personnes qui sont en situation de déficit visuel. Donc ça, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Sentez-vous libre de l'utiliser ou pas. Moi, personnellement, je l'utilise plus du tout, justement pour ne plus poser de problèmes aux personnes pour qui ça impose, parce que je pense que c'est aussi important de le voir comme ça. Et dans le contenu également de la fiche de poste, ce qui est recommandé, c'est de constater parfois à quel point on peut mettre en avant des process qui peuvent être trop longs, beaucoup trop fastidieux, qui sont pas compatibles avec des rythmes de vie de femme, notamment si elles sont parents en plus de ça. Donc du coup, il y a quand même des gros enjeux là-dessus et également tout ce qu'on va laisser transparaître en termes de culture d'entreprise. Florence a super bien mentionné tout à l'heure quand elle parlait de toute cette culture masculinisée, bière, pizza, baby foot. On peut aller plus loin, notamment proposer plutôt des activités qui seraient plus intéressante en fait pour le développement de sa carrière. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que femme dans le numérique, on a plus envie de savoir comment on va pouvoir développer ses compétences, justement, qu'elles soient du coup techniques, mais aussi tout le reste, tout ce que ça englobe. Comment négocier correctement son salaire, comment, prendre la parole lors de présentations en équipe, développer ses compétences de leadership, de management, tout ce qui va jouer sur l'intelligence collective, etc. Ça peut être beaucoup plus pertinent de mettre ça en avant et de mettre en avant en fait plus de souplesse et beaucoup plus de... moins de paraître et plus de dur, quoi. Si je peux dire ça comme ça.
D'accord. Juste avant de passer la parole à Florence avec une question, d'ailleurs, sur l'écriture inclusive, on va rappeler aux gens qu'on peut faire de l'écriture inclusive sans le point médian. Hein. Ça prend peut-être un peu plus de travail en termes de rédaction, mais voilà, parce que beaucoup de gens poussent des cris d'orfraie sur l'écriture inclusive parce qu'elles le réduisent au point médian qui pose les problèmes que tu as évoqués, mais on peut le faire évidemment sans. Florence, je vais te laisser te réagir là-dessus, mais je voulais aussi éventuellement t'orienter sur des questions. Moi, j'avais lu, par exemple, que, alors, deux points, que dans les offres d'emploi, il fallait pas mettre de trop nombreuses demandes de compétences, parce que souvent, les hommes pouvaient répondre à une offre d'emploi, même s'ils pensaient ne maîtriser que 50% des compétences, alors que les femmes, il fallait qu'elles considèrent maîtriser au moins 80-90% des compétences. Et deuxième point, sur le vocabulaire. Traditionnellement, dans l'informatique, on voit beaucoup de vocabulaire qui est un peu compétitif, esprit d'équipe, comme tu l'as dit, ou enfin esprit masculin, plutôt ninja, voilà, des termes comme ça, qui sont plutôt des termes repoussoirs pour les femmes. Donc, est-ce que sur ces deux points-là, tu as des retours?
Oui, complètement. J'ai vraiment grandi dans un milieu d'hommes, en fait, en termes de dessins animés, de tout. et du coup, tout ce qui est guerrier, c'est quelque chose que j'incorpore assez vite et qui me paraît intéressant. Et du coup, je me suis rendu compte après coup que pas mal de mes fiches de poste avaient ce genre de vocabulaire.
Mais toi, ça te dérangeait pas parce que t'as vécu comme...
J'arrive même pas à dire, en fait. D'accord. Je pense que je suis trop dedans pour pouvoir dire. Mais par contre, entre une offre d'emploi où il y a ça et une offre d'emploi qui me parle de chemin de carrière, de progression, il n'y a pas photo. Je vais plutôt aller sur... En fait, je pense que j'ai donné ça en pensant que c'était ce que les gens recherchaient. Du coup, ça nourrit quand même quelque chose d'assez bizarre, parce que en vrai, moi, je veux recruter des gens qui ont l'esprit d'équipe plus que des gens qui veulent battre les autres ou voilà.
Donc ça veut dire qu'il faut mettre plus de terminologie au terme de la coopération plutôt que de la compétition.
Bah là c'est personnel en tout cas.
D'accord.
Mais ce qui est sûr c'est que le côté compétitif en termes de socialisation encore une fois on est élevé très différemment. Donc les filles, les jeunes filles, elles sont plus élevées sur des jeux à jouer toutes seules ou côte à côte. Alors que les garçons c'est plus des jeux d'opposition. Du coup, ça rien que sur l'affinité, on va plus en réalité parler à des futurs garçons, donc des hommes, que à des femmes. Et oui, effectivement, parce qu'il y a aussi un facteur au stress qui peut être différent. Les femmes vont quand même plus hésiter avant de postuler, justement par rapport à la correspondance de ces critères. Il y a le syndrome de la bonne élève qui peut jouer. Moi, je vais donner un exemple que j'avais sur une fiche de poste. On était deux à postuler, donc je le savais pas, mais c'était un pote et moi. Et moi, j'ai mis une semaine avant de postuler, avant de me dire bon, j'y vais pas, tout ça. Et lui, donc je l'ai lu en long en large, hein, l'annonce. Ce que je croyais que la plupart des gens faisaient, mais visiblement non. Lui, il s'est arrêté aux deux premières lignes. Je suis dit, oh ouais, ça passe. Et puis, il a postulé. Rien que sur ça, moi, ça m'avait déliré. Je l'ai su des mois après. Mais rien que sur ça, après avoir eu 20 ans d'expérience derrière moi, je me rends compte que même moi, j'en suis pas protégée. Alors que je dis, bah non.
Ah, parce que là, c'est un exemple récent dont tu parles.
Relativement récent, oui.
Ah, d'accord, ok.
Et on a beau dire, notre cerveau, il se dit, bah, il faut postuler même si on correspond pas partout. Mais on est aussi moins entraîné à avoir des noms ou des échecs. Alors que, encore une fois, de par les jeux qui sont joués par les garçons, c'est ok d'échouer, de perdre, on recommence. C'est pas tout un drame en fait. Alors que sur les filles, c'est plus dur. Sur un corde à sauter, ben je peux pas vraiment tomber. Enfin.
D'accord.
Donc voilà, ça fait qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui vont dans le même sens, qui fait que effectivement d'adopter un langage qui est plus universel ou plus orienté femme, ça peut parfois, en tout cas, contrebalancer, rétablir un peu plus d'équilibre par rapport à, aux candidatures qu'on peut avoir. Et sur l'écriture inclusive, donc au sens large, moi je sais que j'avais zéro candidature quand je l'utilisais pas. Et quand je l'ai utilisé, j'ai eu quelques candidatures. C'était pas foufou. Et il y a Théo2 qui avait utilisé aussi un terme un peu moins genré, donc software engineer, plutôt que développeur. Et qui avait augmenté, je crois, le taux de candidature de 30%, quelque chose comme ça. Donc ça peut jouer parce que moi maintenant c'est vrai que je regarde, je me dis c'est pas tant que les femmes vont se précipiter sur une offre d'emploi parce que je pense qu'elles changent aussi moins souvent, c'est plutôt est-ce qu'on voit des loups, est-ce qu'on voit des warnings, du coup ça va au moins enlever des barrières par rapport à ça.
Alors coup, quel genre par exemple de loups dans une offre d'emploi?
Typiquement si on parle, en fait la question c'est que si on est que entre gars, c'est pas super, c'est pas quelque chose où on a envie de prendre le risque, en fait, spontanément.
Alors peut-être une question, est-ce que par exemple vous allez voir, si vous candidatez sur une entreprise ou une offre d'emploi sur une entreprise ou une collectivité ou autre, hein, ou une association, est-ce que vous allez voir les sites des entreprises pour voir si vous trouvez les photos des personnes, pour voir la
rencontre? Ah, clairement. Mais clairement. Pas que ça, enfin.
Pas que ça?
Tout, en fait.
Tout, c'est-à-dire.
Bah les conférences, les réunions, enfin les réunions non parce que je dois y aller, mais les dîners, les associations sportives, tout je regarde avant. Est-ce que bah y a pas de warning au moins sur l'image publique? Donc ça c'est aussi une bonne pratique d'ailleurs sur l'image corporate.
D'accord. Donc
page d'entreprise.
Donc merci, tu conseilles ce genre de choses aussi, de vraiment d'aller dans ce niveau de détail. C'est vraiment c'est nécessaire en fait aujourd'hui.
Oui, oui, complètement. Je rejoins totalement Florence à ce sujet. C'est en fait aujourd'hui, on a besoin de pouvoir se projeter sur le long terme dans les équipes qu'on a envie de rejoindre. Et forcément, oui, quand on se retrouve, faites le test. Hein, vous allez sur, je sais pas si je peux les citer. Bon, je vais les citer quand même, c'est pas grave. Sur Welcome to the Jungle. Parce que ça c'est un petit sujet qui est assez amusant dans la démonstration de ce qu'on dit. En fait souvent vous pouvez passer d'entreprise en entreprise et regarder les photos et généralement c'est toujours que des personnes blanches en très grande majorité et généralement que des hommes et tout le monde porte des sweats bleu marine. En ce moment c'est que ça. Et de fait ça crée beaucoup d'interrogations sur aussi quel quelle image, quelle culture on est en train de fonder, surtout sur des environnements start-up, parce que je pense que ça se lisse un petit peu plus quand même quand on est sur des, sur des licornes ou des institutions plus, plus variées. On parlait d'associations, on parlait de collectivités ou autres, clairement, ça se lisse davantage. Mais c'est vrai que sur la culture start-up, on voit quand même qu'il y a une espèce de réassurance du code vestimentaire, de la présentation, du type de pose aussi, des endroits dans lesquels on pose, comment on va poser, est-ce qu'on se met de trois quarts face à la caméra, est-ce qu'on est plutôt sur un non-verbal de conquérant ou plutôt passif, est-ce qu'on est plutôt tous autour d'un tableau blanc en train de coller des post-it ou plutôt dans une posture plus individualiste. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très épiées par les femmes et les minorités de la tech pour savoir si elles vont pouvoir résister à tous les biais qui vont s'abattre sur elles une fois qu'il y aura cette prise de poste.
D'accord. Alors c'est bien de parler de ça vu que ça nous permet d'enchaîner, enfin en tout cas d'aller sur le travail sur le long terme, notamment la culture d'entreprise. Alors je précise que Welcome to the Jungle, c'est un site qui permet de découvrir les coulisses des entreprises qui recrutent, etc. C'est bien ça?
C'est ça, exactement.
D'accord, ok. Donc là effectivement, on a parlé de l'offre d'emploi, du recrutement. Donc une personne, une femme est recrutée. Et l'enjeu après, ça va quand même qu'elle reste, enfin en tout cas tant qu'elle le veut, en poste. Sachant, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être que l'une de vous là, on assiste dans l'informatique à des départs assez rapides entre guillemets. Enfin beaucoup de femmes qui partent assez rapidement en fait d'entreprise parce que tout simplement, elles se rendent compte que le milieu ne correspond pas à ce qu'elles pensaient y trouver quoi. Alors je sais pas si vous avez les chiffres en tête, l'une de vous.
C'est la moitié. La moitié au bout de 10 ans. En général, ils disent 35 ans. Mais après, des études françaises et américaines, mais qui convergent à peu près sur des données. Je ne sais pas si Marcy, t'as ça.
Non, c'est exactement ce chiffre-là aussi que j'avais en tête. C'est une femme sur deux qui quitte la tech après 35 ans. Et en général, oui, ça glisse sur les 10 ans de carrière. Il y a des vraies remises en question à ce moment pivot.
D'accord. Donc, ça suppose que la structure, pour éviter ça, quelle qu'elle soit, doit travailler sur sa culture entreprise, notamment cette culture d'inclusion, alors sur la diversité de genre et puis sur toutes les diversités, encore une fois, même si aujourd'hui on parle beaucoup de diversité de genre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette en place? Quelles sont les choses qu'il faut absolument qu'elle mette en place? Est-ce qu'il y a des choses à faire, par exemple, sur les horaires des réunions, je suppose, qui peuvent être le soir? Qu'est-ce qui peut être mis en place sur le travail autour du sexisme ambiant, voire plus dans le monde de l'informatique? Florence.
Sur les horaires, c'est un exemple, mais qui est un peu sexiste en vrai, parce que du coup, on associe ça souvent à la maternité, alors que tous les parents ont a priori des enfants, enfin tous les parents, les hommes et les femmes, pas tous, mais bref.
Historiquement, c'est bien que les femmes s'occupent plus d'aller chercher, et je suis un homme parent, donc j'assume parfaitement
Dire ça. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai, t'as raison de le mentionner, parce qu'on entend aussi le commentaire en disant que c'est plus un sujet.
Alors que c'est toujours un sujet.
Très clairement, on est d'accord. Surtout pour récupérer les enfants, les déposer, ça va parce que c'est vite fait.
C'est bon, c'est 30 minutes le matin, voilà.
Exactement. Si, je m'en occupe, je me déplace. Non, parce qu'il y a le bain, la nourriture, tout ça. Mais en fait, ça me fait penser à autre chose. Du coup, moi, par rapport au recrutement, je crois que j'ai mis 6 mois ou 1 an avant d'arriver à recruter des femmes compétentes, vu que les gens aiment bien dire ça. On est d'accord, je ne suis pas à but non lucratif quand je travaille. L'idée, c'est de trouver des bons collaborateurs et collaboratrices. Et ce qui était intéressant, en tout cas, l'une des conclusions que j'avais après toute cette démarche, c'est que d'une part, j'ai recruté plus de femmes, mais surtout, j'ai amélioré le processus de recrutement global, mais pour tout le monde. Et du coup, ces sujets de réunion pas trop tard le soir, en fait, ça profite à tout le monde, les mères, les pères, et puis les gens aussi, en fait, parce qu'il y a, quand on a 7 heures ou 8 heures dans les jambes, on est un peu moins frais pour une réunion. Donc, en fait, on y gagne. Ça permet d'avoir aussi du temps focus. Donc ça, c'est effectivement une des pratiques. C'était quoi ta question? Attends, j'ai loupé. Pourquoi on parlait ça? Des bonnes pratiques d'inclusion. Oui.
Les bonnes pratiques pour conserver ces femmes, tout simplement, qui ont été recrutées.
Pour moi, c'est tout ce qui est sexisme ordinaire qu'il faut remédier. Et comme disait Marcy tout à l'heure, personne n'est protégé de ses propres biais. Donc déjà, franchement, la base, c'est de les reconnaître. De se dire, on a des biais, on en a sûrement plus qu'on croit, c'est même sûr. Donc l'enjeu, c'est de pas enterrer le problème en disant, nous, notre entreprise, chez nous, il n'y a pas de sexisme. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a tout. Parce que c'est la société. Il n'y a pas de raison qu'on soit hermétique à tout ça. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que, au quotidien, quand ça va se produire, ce soit géré. Donc, une des pratiques, déjà, c'est de soutenir les communautés qui sont moins représentées, en développant justement des communautés pour que ces personnes ne soient pas isolées. Donc, ça peut être des Slack, enfin des canaux Slack. Oula, je donne du jargon là, non ?
Bah, tu expliques ce que c'est Slack, tout simplement.
Des espaces de discussion,
voilà, en ligne,
virtuelles, voilà. Ça peut être des réunions récurrentes où les gens peuvent remonter leur expérience. Ça peut être aussi programmer des échanges entre différents types de populations pour que chacun et chacune ne soit pas dans sa bulle aussi et connaisse aussi les réalités des autres. Ça peut être des sensibilisations au niveau de tous les niveaux d'échelle de l'entreprise, y compris la direction, pour avoir connaissance des biais dont on peut être sujet. Ça peut être appliquer la loi, c'est pas mal aussi, dans le sens réagir en tant qu'entreprise, en tant que collègue, en tant que témoin, quand on entend quelque chose qui est pas ok, qui soit raciste, sexiste, validiste, ou qui en réalité mette quelqu'un mal à l'aise, c'est pas ok dans le milieu de l'entreprise. Et il faut le dire, parce que je pense que le plus dur, c'est le silence. C'est le fait que ça se passe sans conséquence et ça donne juste l'impression d'être toute seule parce que personne n'ose rien dire.
Alors, j'ai une question. Tu parlais tout à l'heure de sexisme ordinaire. Historiquement, dans le sexisme ordinaire, il y a les blagues sexistes que font les hommes.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes, notamment, qui, quand il y a une blague sexiste, disent « attention, là, c'est une blague sexiste ».
Oui, il y en a plus. Mais après, j'ai pas vécu il y a 50 ans, donc je peux pas vraiment comparer. et après, faut voir quand je t'entends, je me pose l'intention de ta question, parce que en fait, ce que j'entends souvent, c'est qu'on a envie d'être rassuré en fait, en disant aujourd'hui c'est mieux qu'avant.
Non, c'était pas ma question. Moi, je parlais par rapport à ma pratique ou. Professionnel depuis 20 ans, j'ai vu les choses évoluer. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques années, alors je suis un peu plus vieux que toi, mais il y a quand même pas 50 ans. Mais il y a quelques années, il y a des choses qui entre guillemets ne me choquaient pas alors qu'elles étaient choquantes. Et aujourd'hui, je vois des choses que je fais remarquer ou que d'autres font remarquer. Donc je vois une évolution. Donc, je me dis que c'est que dans d'autres structures, ça doit être le cas, sans que ce soit parfait. Mais
moi, j'en ai pas vu beaucoup en entreprise. Après, j'en vois plus des hommes se prononcer vraiment en tant qu'alliés, mais dans le public, on va dire, dans l'espace public. Donc sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Je vois des choses où, ouais, j'en vois un petit peu. J'en vois qui disent qu'ils sont favorables et qui vont mettre en place des initiatives. Mais quand il y a un souci, honnêtement, j'en entends pas beaucoup.
Le traitement d'un vrai incident, tu veux dire que c'est
un vrai incident, d'un incident en tout cas. Souvent, c'est des femmes qui vont prendre la charge, ou alors il va y avoir une espèce de malaise. Ou alors le plus que j'ai vu, c'est juste que les gars vont pas rire en plus. Ils vont peut-être faire une petite moue, genre « Ah, bon, voilà ». Mais de là à dire « Non, ça, c'est pas OK, c'est sexiste », moi, j'ai jamais vu. Après, je sais pas...
Merci, peut-être, là-dessus.
Toi, peut-être, on a vu.
Moi, j'ai vu.
Tant mieux, merci.
Carrément. Mais en fait, je pense que... J'étais en train de me poser la question en même temps. Mais je pense qu'il y a aussi, suivant les secteurs ou les postes occupés dans la tech, on n'a pas du tout les mêmes degrés de sensibilité aux enjeux sociaux. Je pense que dans le cloud, on en est quand même un peu loin de ces prises de position d'alliés. Elles sont pas aussi ouvertes que chez... j'essaie de réfléchir à d'autres sous-secteurs de la tech, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une bascule claire et nette sur la mise en avant des femmes dans le numérique en France, notamment dans tous les espaces de conférences, de conventions et autres. Je pense que ça a beaucoup chamboulé aussi la prise de conscience de tous ces types de comportements qui sont pas du tout bénéfiques, comme le disait Florence, en fait, pour le global. C'est-à-dire qu'en faisant évoluer progressivement vers le bien la condition des femmes et des minorités, on améliore la condition de tout le monde. Et ça joue énormément. J'ai pu voir et constater et discuter parce que voilà, je fais partie de certains, comme tu disais, des espaces de discussion en ligne virtuelle, où quand même aujourd'hui on a vraiment des personnes hommes ou identifiées hommes qui vont pas hésiter à prendre position et à défendre leurs collègues femmes lorsqu'il y a un conflit. Et ça peut aller assez loin, hein. Je veux dire, j'ai déjà vu des situations comme ça prud'homales où justement des hommes ont fait front ensemble pour soutenir leurs collègues femmes qui a vécu des situations sexistes, dangereuses, et qui sont tout à fait sérieuses, puisqu'on parle quand même de situations prud'homales. Donc voilà, non, j'ai pu avoir la chance quand même de constater qu'il y avait une vraie prise de conscience là-dessus. Ça veut pas dire que les comportements sexistes, ils ne subsistent pas. Tout ce qui est blague, ça, je pense qu'aujourd'hui, sensiblement dans notre société, on a quand même une grande remise en question de l'humour, avec qui on peut rire et de quoi on peut rire. Donc déjà, il y a quand même, je pense, une espèce de temporisation là-dessus. Là où je tiens à appuyer quand même quelque chose, et je pense qu'on a énormément d'amélioration à apporter, c'est sur tout ce qui va être effet Matilda, en fait. Hein, le déni du travail des femmes, la minimisation qui est quand même récurrente des travaux des femmes, ou alors des femmes qui vont s'exprimer, je sais pas, je donne un chiffre au hasard, mais 10 fois sur la même idée en itération à différents points dans leurs équipes, et puis il suffit qu'il y ait un homme au dernier moment qui dise exactement la même chose que la femme a répété pendant 10 fois pour que ça y est, le manager ait une espèce d'illumination, d'épiphanie, qui dise « Ah mais oui, mais évidemment que ça, c'est une idée extraordinaire. Mmh. » Et ça, c'est l'un des leviers qui fait que les femmes se découragent et finissent par s'en aller, par le manque de reconnaissance et l'appropriation complète de leurs travaux et de leur participation active à la vie de l'équipe. Parce qu'il y a ce sujet sensible qui en découle forcément, qui est comment peut-on rendre légitime, palpable, entendable, visible une dose de travail et d'idéation qui nous a été complètement spoliée lors de l'entretien annuel. Et ça joue sur tout. Ça joue sur la négociation salariale, ça joue sur les augmentations, ça joue sur la prise en compte de la participation des femmes. Et après, un beau jour, on se demande pourquoi la femme est partie de l'équipe, alors qu'en fait, on avait tous les signes avant, quoi.
Mmh. Ça me fait penser du coup aussi à tout ce qui est rendre service dans l'entreprise, tout ce qui est travail gratuit.
Oui, rendre service, d'accord. Oui.
Ça va être les pots de départ, ça va être prendre soin des autres.
Oui, le pot de départ, c'est les femmes qui rangent la salle, qui l'installent, qui rangent.
Qui réfléchissent, qui vont donner une bonne ambiance, oui. Qui vont gérer la charge relationnelle en fait de l'équipe, qui est super importante. L'homme, il a juste à travailler sur ses tâches qui lui sont conférées, et du coup, il investit dans sa carrière. Fine, mais ça me dérange pas en soi, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir du relationnel. Ce qui est problématique, déjà, c'est est-ce que c'est un choix de tout le monde, et aussi est-ce que c'est valorisé de la même façon. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, ça fait que, ça c'est un des facteurs qui font que les femmes quittent la tech, parce que il y a trop d'inégalités et de sexisme.
À vous entendre, est-ce que dans toutes les entreprises, toutes les structures qui recrutent, ou toutes les structures d'ailleurs où il y a des êtres humains, finalement, il faut que des formations soient organisées autour de ça, et quasiment obligatoires, c'est-à-dire comme dans les formations annuelles qui sont des formations, de techniques, on doit faire une formation pour que, par exemple, l'effet Matilda, les gens entendent parler et sachent ce que c'est, parce que finalement, je pense que beaucoup de gens qui écoutent l'émission aujourd'hui n'ont sans doute jamais entendu parler de cet effet-là. Est-ce que ça devrait être une obligation et sous quelle forme ça peut prendre ce genre de formation? Je crois que c'est un peu ce que tu fais, toi, Marcy, si j'ai bien compris.
Tout à fait, oui. Moi, on m'appelle, en fait, dans les équipes et à la suite de discussions internes, notamment sur des problématiques de marque employeur et de communication interne, sur comment rajouter des blocs dans les démarches qui sont réalisées, soit par les pôles recrutement, RH, communication et marketing, pour consolider toutes ces démarches qui visent notamment à plus d'inclusion. Donc moi, on m'appelle souvent pour soit refaire uniquement mes conférences, ou alors faire mes conférences et des ateliers, soit faire mes conférences, des ateliers et des débats. Et ce que je garantis, c'est de livrer une infographie qui résume à peu près tout ce qui a été dit et les problématiques de chacun des clients qui ont fait appel à moi, et un livrable complet d'à peu près une vingtaine de pages dans lequel je vais bien resituer quel est le contexte, pourquoi on fait cette démarche-là, quels sont les chiffres à suivre et quelles sont les démarches qui vont amener à beaucoup plus de compréhension de l'intérêt de toutes ces problématiques qu'on ose adresser beaucoup plus facilement aujourd'hui. Parce que, comme tu disais, l'effet Matilda, on ne sait pas ce que c'est jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on voit la démonstration complète de ce que ça engendre. Et quand j'arrive en entreprise et que d'un seul coup, la parole est libérée, ça fait un avant-après qui est assez tout drôle pour certaines personnes. Parce qu'en fait, ces gens-là ne le font pas forcément, et ça c'est un point sur lequel je veux insister, c'est que les gens ne le font pas nécessairement pour faire du mal. C'est parce que culturellement, il est complètement admis qu'on puisse avoir ce type de comportement-là. Et quand Florence, tu disais appliquer la loi, c'est aussi refaire le focus là-dessus. Moi, j'aime à redire que tout ce qui est discrimination correspond quand même à des textes de loi. C'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi sur la dignité des gens et leur capacité à avoir une carrière tout à fait convenable en entreprise. Mais je vous en parlais aussi tout à l'heure, il y a aussi le pacte parité pour l'égalité femmes-hommes qui existe dans la tech et qui a été signé par un grand nombre de licornes il y a quelques années maintenant. L'objectif quand même de celui-ci, c'est de former les managers aux enjeux de la diversité. Il y a la lutte contre le harcèlement, les discriminations. D'ici la fin de l'année, il me semble, de la signature du coup de ce pacte-là. Et l'objectif, c'était quand même aussi celui-ci, c'était d'atteindre un seuil minimum de 20% de femmes en 2025 dans les équipes, puis 40% en 2028. Je pense qu'on a quand même une très grande marge encore pour faire évoluer ces chiffres. Voilà.
Bah, écoute, merci. Mais oui, il y a Élise qui me fait signe qu'on arrive à la fin, parce qu'en plus, on a un sujet enregistré juste après, donc on ne peut pas dépasser. Ce que je vais vous proposer, ça va être le mot de la fin, chacune. 2 minutes, max. Pour soit faire un résumé de ce que vous avez envie, soit mettre l'accent sur un autre point. On va commencer par Florence Chabanois.
Alors 2 minutes, ça marche. Je pense qu'un bon point de départ, c'est de mesurer où on en est aujourd'hui pour être sûr d'avancer. Ça, c'est quelque chose, c'est la base. C'est ça qui permet de mesurer les progrès et d'être sûr de se donner les moyens pour ça et de changer un peu nos habitudes qu'on va tout le temps reproduire. Par rapport à la culture. Attention aussi aux mots, on va souvent dire les gars, on va parler au masculin, on peut parler en double nom, on dit les gars et les femmes, ou les gens, ou les mondes. Et aussi être conscient du temps de parole dans les réunions, parce qu'aujourd'hui c'est 70% du temps qui est occupé par les hommes. Donc c'est beaucoup de... je dirais qu'il faut déjà observer aujourd'hui où on en est, de façon qualitative ou quantitative, mais vraiment ne pas se précipiter sur des actions. Et de voir comment les femmes réagissent par rapport aux hommes, comment les hommes réagissent par rapport aux femmes, avant de vraiment pouvoir commencer à adresser le sujet de la culture. Je suis bon là, tu as dit.
Très bien, oui, t'as même fait moins de 2 minutes. Merci.
Ouais, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est vraiment faire attention, en fait, à toutes les dérives de ce qu'on appelle le boys club. Donc, tu parlais de ça tout à l'heure, Florence, tout ce qui est culture bro. Ça va assez vite aujourd'hui, parce que nous, on défend tous ces sujets-là. On a fait évoluer pas mal de points en discutant, en mettant en place certaines choses à travers différents collectifs. Mais faut pas perdre de vue que le boys club que nos générations ont vu par le passé ou vivent actuellement est en train de vivre des chamboulements de nouvelles générations entrantes. Et ça sera un point de vigilance que j'aimerais apporter. C'est que mine de rien, toutes les prévisions qu'on a sur les générations à venir quant au sexisme qui est véhiculé, il me semble que je n'ai plus le chiffre en tête malheureusement, mais il me semble que du coup la génération Z et Alpha à venir est encore plus sexiste que la génération que la nôtre et du coup les précédentes. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire vraiment très 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 attention et puis faire preuve aussi de... on parlait de sororité et on parlait de fraternité, mais je pense que là, les hommes, du coup, de nos générations et des générations précédentes qui ont corrigé leurs actions, ont pu davantage participer à tous les enjeux liés notamment à la féminisation, la tech, vont devoir prendre très au sérieux leur rôle de mentor vis-à-vis des hommes qui vont rentrer. Parce que si on travaille pas tous ensemble et qu'on collabore pas et que les hommes ne se mettent pas non plus en exemple, en fait, on va faire reposer toute cette nouvelle charge d'une nouvelle génération sur du coup la nôtre, la génération de femmes qu'on occupe, les précédentes et puis celle qui est en train d'arriver. Donc j'ai envie de dire et de faire un petit appel aux hommes de la tech de vraiment 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 être très conscients de ça pour qu'on se retrouve pas encore dans des situations complexes à rebâtir, redéconstruire en tant que femme et que cette charge-là ne repose pas encore une fois que sur les femmes. Donc vraiment soyez investis en tant qu'homme, justement, porter ces sujets-là et sensibiliser les jeunes hommes au fait qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi, surtout avec les dérives que l'usage d'Internet, le scrolling, les likes, enfin voilà, il y a pas mal de dérives qu'on n'avait pas avant, parce que nous, on a quand même grandi avec une génération plutôt avec un seul ordinateur par foyer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'accès à Internet est complètement différent. Donc, il faudra vraiment faire attention à ça et s'investir du fait que la jeune génération est aussi à surveiller de près et surtout à éduquer.
Bah écoute, merci. Donc merci à toutes les deux. Donc, nos invités, c'était Florence Chabanois et Marcie-Erika Charolois pour ce beau sujet. Et donc, on mettra quelques références, notamment sur ce dont vous avez parlé, sur les méthodes, etc., dans l'émission du jour. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci, Fran.
Eh bien, nous sommes en direct, de retour en direct, mardi 5 novembre 2024. Vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission, de ce sujet principal, sur la page consacrée à l'émission du jour, sur libreavoue.org/225. Pardon, excusez-moi. Nous allons faire une pause musicale. Alors, il est prêt, il a mis le casque sur les oreilles, il est en face de moi. Après la chronique musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calame. En attendant, nous allons écouter une chronique musicale très courte, une pause musicale, un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à coup de cause commune, la voix des possibles.
Il y a Dracula dans le beau salon, il y a un zombie qui mange mes biscuits, il y a une sorcière qui tricote derrière, il y a un squelette qui met mes baskets, il y a un fantôme dans la maison. Il y a Dracula dans le beau salon, une araignée qui lit mes BD, il y a un gros rat qui rigole de moi, un loup-garou qui veut des bisous, il y a un fantôme dans la maison, il y a Dracula dans le beau salon, une chauve-souris cuit des spaghettis, il y a un serpent qui se brosse les dents, et un chat noir avec une guitare. Il y a un fantôme dans la maison, il y a Dracula dans le beau salon, il y a un zombie qui mange mes biscuits, il y a une sorcière qui tricote derrière, il y a un squelette qui met des baskets, il y a un fantôme dans la maison, il y a Dracula dans le beau salon.
Nous venons d'écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence libre, licence art libre. J'espère que ça t'a plu, Vincent. Je l'ai un peu choisi pour toi. Je ne sais pas si ça t'a plu.
Oui, tout à fait.
Ah.
Je ne sais pas pourquoi tu l'as choisi pour moi. Mais ça
oh, chanson française avec... je sais que tu es amateur.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors décidément, le lama est totalement déchaîné parce que l'équipe de rédaction Bouki et Jean reprennent l'antenne pour une cinquantaine de secondes.
Ici, en direct de la rédaction du Lama déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante.
La campagne de soutien financier de l'April ?
Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 euros. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés, bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi.
Mais c'est demain le prochain numéro alors ?
Eh oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que.
Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes.
Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres.
Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission.
On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April.
Et bien après cet petit appel, on va passer à notre dernier sujet. « Vincent Calame, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Aujourd'hui, Vincent continue sa présentation du livre La convivialité d'Ivel Illich, troisième partie. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric. Oui, alors aujourd'hui, je ne vais pas encore approfondir le lien entre la convivialité et le logiciel libre. Mais promis, ce sera le sujet de la quatrième et dernière partie de ma chronique, un peu de patience. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter deux concepts qu'il me semblait important d'aborder pour ne pas se contenter de survoler l'ouvrage. Donc ces concepts, c'est les seuils de mutation et le monopole radical. Alors, dans mon épisode précédent, j'indiquais que Ivan Illich opposait l'outil convivial à l'outil industriel, mais qu'il ne fallait surtout pas y voir une critique de la technique elle-même. Par outil industriel, Ivan Illich entendait l'outil produit par notre société industrielle actuelle, sur laquelle, vous l'aurez compris, il porte un regard sévère et qu'il appelle à faire évoluer vers une société post-industrielle, ce qu'il appelle la société conviviale, et qui n'est pas un retour à une société pré-industrielle. Donc le centre de la thèse d'Ivan Illich est que la société industrielle a inventé la machine pour nous libérer de l'esclavage, ce qui est bien, mais qu'elle a fait de nous des esclaves de la machine. Pour expliquer cette évolution, Ivan Illich introduit donc la notion de seuil. Toute institution franchit deux seuils de mutation. Le premier seuil est franchi quand un nouveau savoir, une nouvelle technique, apporte de réels gains d'efficience et qu'il est possible de mesurer par des critères scientifiques. Le deuxième seuil est franchi quand l'institution devient contre-productive, lorsqu'elle a donné naissance à une caste de spécialistes qui impose son contrôle et ses valeurs à l'ensemble du corps social. Quand cette caste substitue les moyens aux fins. Donc, par exemple, je cite Ivan Illich, dans le cas des transports, il a fallu un siècle pour passer de la libération des véhicules à moteur, c'est le premier seuil, à l'esclavage de la voiture, et donc là, ce qui est le second seuil. Dans le domaine qui nous concerne, dans cette émission, qui est le numérique, on peut dire que le premier seuil a été franchi avec la généralisation d'Internet, et on peut clairement se poser la question de savoir si le second seuil, celui de la contre-productivité, n'a pas été franchi depuis quelques années avec l'avènement des réseaux sociaux et leur action délétère sur la démocratie. Ce qui nous amène au deuxième concept que je voulais introduire, le monopole radical. Alors, le monopole, on voit à peu près ce que c'est. Hein, pour Ivan Illich, toute firme industrielle cherche à établir un monopole pour vendre ses produits. Cela redit le choix du consommateur, mais cela ne limite pas par ailleurs sa liberté. Une firme de soda peut avoir le monopole des boissons gazeuses. Cela ne vous empêche pas de boire de l'eau et de la bière. Tout autre est le monopole radical, qui n'est pas celui d'une marque, mais celui d'un type de produit. Il y a monopole radical quand l'alternative n'est plus possible. Ivan Illich prend l'exemple de la voiture, à nouveau, qui façonne les villes, au point qu'il devient impossible de marcher pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas conduire. Alors, sur la question de la voiture, nous avons fait des progrès depuis les années 1970 d'Ivan Illich, où la voiture était vraiment reine. Pensons aux voies sur berge créées par Georges Pompidou à Paris, que les plus anciens ont connues du temps où c'était une voie de circulation. Comme quoi, le monopole radical n'est pas inéluctable, il est possible à la collectivité publique de lutter contre. Pour revenir à l'exemple du numérique, ce concept de monopole radical s'applique très bien aux GAFAM. Aucun d'entre eux n'est en situation de monopole, puisqu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Il sera intéressant d'ailleurs, de ce point de vue, de voir ce que donnera la procédure anti-monopolistique entamée contre Google. Donc ils sont en concurrence, mais c'est l'ensemble qui tente d'imposer le monopole radical de sa production industrielle. On peut même dire que le monopole radical est atteint si on considère les ordiphones. Il est difficile d'utiliser un ordiphone sans GAFAM dedans, encore plus difficile de vivre avec un simple téléphone et très très compliqué de vivre sans téléphone du tout. Le pire, c'est que l'établissement de ce monopole radical n'est pas le seul fait des GAFAM, mais de l'ensemble des institutions, administrations, banques, etc., qui imposent l'usage d'une application au téléphone pour régler des démarches indispensables et qui se trouvent ainsi complices. Donc voilà, j'ai fait une présentation rapide de mes deux concepts. Et pour conclure, je vais revenir sur le terme « outil industriel » hein, et le risque de malentendu qu'il comporte. Dans certaines parties du texte, Ivan Illich parle d'outils dominants ou d'outils disrupteurs. D'autres auteurs ont sans doute parlé d'outils capitalistes, tant l'avènement de la société industrielle est lié à l'essor du capitaliste. Mais Ivan Illich réfute ce terme car pour lui, le problème ne vient pas de savoir qu'il possède l'outil de production, mais bien de sa finalité et de son usage. Je précise au passage qu'à l'époque, Ivan Illich avait été très critiqué par les marxistes sur ce sujet. Pour l'enlever l'ambiguïté, je vais me permettre l'audace d'une nouvelle formulation en utilisant un adjectif que nous connaissons bien ici sur cette antenne. Plutôt que d'opposer l'outil convivial à l'outil industriel, j'opposerai l'outil convivial à l'outil privateur, comme nous opposons logiciel libre à logiciel privateur, qui est une formulation que nous privilégions par rapport à l'ancienne logiciel propriétaire. Car c'est bien la même mécanique qui est à l'œuvre. Il s'agit l'outil industriel Ivan Illich prive l'être humain de son autonomie, comme le logiciel propriétaire prive l'utilisateur de ses libertés informatiques. Voilà, alors j'espère que cette première passerelle jetée entre logiciel libre et outil convivial vous convaincra et vous donnera envie d'écouter la suite dans ma prochaine chronique, et a priori dernière, sur Ivan Illich.
Bah écoute, merci Vincent, on a hâte d'écouter effectivement la quatrième partie. Alors peut-être en décembre ou en janvier, on va voir en fonction des disponibilités sur les chroniques. Donc c'était la chronique Lecture buissonnière de Vincent Calame. Merci Vincent.
Merci.
Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces à Lens, jeudi 7 novembre 2024, dans l'après-midi, il y a une table ronde 20 ans de commun numérique, enjeux et perspectives dans le cadre des 20 ans de la structure coopérative CLIS 21, donc une table ronde à laquelle participera notamment Laurent Costi, le vice-président de l'April. On l'a cité tout à l'heure en début d'émission, à Toulouse, le week-end des 16 et 17 novembre 2024, il y aura un Capitole du Libre, donc un week-end consacré au logiciel libre. Donc vous verrez Benjamin Bellamy, vous aurez également Isabelle Avani, ma collègue Isabelle Avani, Étienne Gonu et d'autres membres de l'April. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une soirée radio ouverte, donc le studio est ouvert avec apéro participatif à la clé, l'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 6 décembre, donc à partir de 19h30 et j'aurai le plaisir de participer à cette soirée. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Benjamin Bellamy, merci Erika Charanlois, Florence Chabanois, Vincent Calame. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Élise. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibault et Théocrite, c'était sa première la semaine dernière, bénévole à l'April. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org/225 toutes les références utiles de l'émission du jour ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Si vous préférez, vous pouvez également nous laisser un message via le site. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Le numéro 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 12 novembre 2024 à 15h30. Notre sujet principal sera animé par Laurent Costi, dont j'ai parlé à l'instant, et portera sur Bénéva Libre, un logiciel libre qui facilite la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 12 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Alors, Élise a baissé le volume du générique. L'émission est terminée, mais il y a, je suis sûr, encore des personnes qui écoutent jusqu'à la fin du générique. On a parlé à deux reprises de la campagne le lama déchaîné. Et donc, si vous allez sur le site april.org/campagne, vous verrez qu'il y a un lama. Et vous posez la question, pourquoi le lama? Alors, le lama, il a l'air blasé. Mais je vais vous donner un truc. Si vous cliquez sur l'image, alors apparaît un lama qui crache. Et une bulle qui dit, quand April fâché, April faire toujours ainsi. Le lama qui crache a été imaginé en réaction à des personnes politiques qui nous trouvaient que l'April était parfois trop virulente dans ses communications, alors qu'en réalité elle faisait simplement son travail, faisait des projets de loi très très discutables. Donc l'explication du lama déchaîné sur april.org/campagne. Bonne fin de générique à vous. We'll be right back.
Cause commune. Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm. Causecommune.fm.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans.
Putain, 10 ans. En 2023, Plateau Urbain fête ses 10 ans. En permettant à la fois un mode de fabrique de la ville contributif, basé sur l'expérimentation d'usage, et la mise en œuvre de politiques territoriales, d'accueil, d'hospitalité, de développement économique, d'animation culturelle et de vie sociale, l'urbanisme transitoire couvre aujourd'hui une grande diversité d'objectifs.
Réunissant des porteurs de projets issus de nombreux secteurs d'activité, les projets temporaires et transitoires se font souvent agora, propices au dialogue entre différents publics.
C'est en ce sens que la coopérative souhaite ouvrir largement les portes du tiers-lieu Césure lors de 10 conversations. 10 temps forts de découvertes et de rencontres